Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Parle-nous encore, ô Dieu. Parle-nous encore à cette heure. Nous avons besoin d'entendre ta voix, tes instructions. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore en ta présence. C'est encore le combat et la lutte. C'est encore les tentations et les chutes. C'est encore la grâce qui nous relève. C'est encore ta main qui s'étend jusqu'à nous. Nous avons besoin de cette main. Nous avons besoin de cette assistance. Nous avons besoin de ces instructions. Parle, ô Dieu. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous lirons dans Romains chapitre 1, verset 18, chapitre 1, verset 18, ensuite 22 jusqu'à la fin. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés, conséquence de l'idolâtrie, conséquence du changement du plan de Dieu et de l'idolâtrie, d'adorer la créature plutôt que le Créateur, conséquence. Dieu les a livrés à des passions déshonorables. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, mais sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel, ceux qui pratiquent de telles choses, sont dignes de mort. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Ne me dites pas que le Nouveau Testament ne parle pas contre l'idolâtrie. Et là, dans la description qui nous a été faite, nous avons l'image, la photographie, le symbole, l'empreinte de notre monde d'aujourd'hui dans son égarement. La moralité aujourd'hui dans notre monde est de plus en plus en ruine. Et à cause de l'idolâtrie, les hommes tombent dans des péchés abominables, à tel point qu'ils déshonorent leur propre nature. Et ils tombent plus bas que la bête. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos civilisations dites chrétiennes, où les hommes s'abandonnent à la licence morale, jusqu'au plus bas degré, homme avec homme, femme avec femme. Et encore, ils approuvent ce qu'ils font. Ils approuvent ce qu'ils font. Et ils approuvent tous ceux qui le font, sachant bien dans leur conscience que Dieu condamne à mort des êtres qui font de telles choses. Et nous avons aujourd'hui, jusque dans notre monde aujourd'hui dissivilisé, des lois et des gouvernements qui soutiennent cette chose-là. Alors que dans les générations passées, ceux qui faisaient de telles pratiques, ils étaient sous le coup de la loi purement humaine, j'entends. Donc il y avait plus de conscience autrefois qu'aujourd'hui. Mais le monde, ainsi que nos dirigeants, plus que jamais dans notre monde, tombe dans l'idolâtrie, tombe dans le rejet des valeurs morales, le rejet de tout ce qui est institué par Dieu. Et il tombe dans la pourriture la plus complète qui amène le jugement et la souffrance. La souffrance est une cause... Non, l'idolâtrie est une cause de souffrance. L'idolâtrie est une cause de souffrance. Nos souffrances sont causées par l'idolâtrie. L'homme, dans son aveuglement, a voulu abaisser Dieu à son niveau en se fabriquant des dieux de sa propre main, des dieux richesses, des dieux bien matériels, des dieux convoitises de la chair, des dieux qui leur permettent de faire tout ce qu'ils veulent, des dieux de coutume, des dieux de tradition humaine, des dieux de famille, des dieux d'affaires, des dieux de commerce qui avaient été personnalisés dans le temps des Grecs et des Romains, il y a bien longtemps, dans des statues que nous avons, que nous connaissons, et dans des dieux que nous connaissons, et qui ont franchi les siècles, parce que si aujourd'hui on a oublié leur nom, on n'a pas oublié leurs pratiques. Et nous sommes tombés plus bas qu'eux. Lisez l'histoire dans la civilisation romaine. Comment la civilisation romaine, avec tous ses dieux, et ses statues, et ses idoles, a terminé. Elle a terminé par une licence générale, par une dégradation morale terrible. Et cette dégradation morale et la dégradation de la famille a fait que la civilisation même romaine, aussi puissante soit-elle, est tombée en ruine. Et dès l'instant où nous devenons la même chose, des homosexuels, des lesbiennes, et des débauchés moraux avec tant de femmes autour de nous et dans notre lit, eh bien, et que nous méprisons la famille et les enfants et la cellule familiale telle que Dieu l'a voulu, notre civilisation va se détruire et se dégrader complètement. Il y a même des pays où il est interdit de prêcher comme je prêche ici. Parce qu'on prêcherait contre certaines lois de soi-disant tolérance. Pouvons-nous tolérer le péché, la dégradation de la société, la destruction de la famille, les enfants qui n'ont plus de parents, les hommes et les femmes qui sont rongés par le sida et qui s'en vont mourir cachés dans un coin à cause de leur débauche morale? Je ne parle pas de ceux qui ont eu le sida par transfusion de sang. Je ne parle pas de ceux qui ont eu le sida à cause d'injections avec des aiguilles infectées, comme ceci se fait dans certains endroits sans faire attention et prendre les précautions voulues. Mais je parle des débauchés sur tous les plans. C'est le résultat de l'idolâtrie et de rien d'autre que de l'idolâtrie, frères et sœurs. Durant des siècles, nous avons essayé de ramener les choses éternelles. Nous avons essayé de ramener la majesté divine au niveau humain en les rendant semblables à nous, en les rendant aussi vils que nous, aussi fourbes que nous, aussi vains que nous, aussi cupides que nous. Voilà ce que nous avons essayé, d'amener la majesté divine à notre niveau et l'obliger de faire comme nous voulons. Et avoir l'approbation avec notre péché, avec notre mensonge, avec notre saleté morale. Et les dieux que nous avons créés, nous pouvons le voir dans l'histoire des Grecs et des Romains, ce sont des dieux licencieux. Alors que Dieu veut nous élever jusqu'à lui, nous avons voulu abaisser Dieu jusqu'à nous. Ce n'est pas cela. Si nous voulons essayer d'abaisser Dieu jusqu'à nous, nous tomberons dans l'idolâtrie la plus abjecte. Mais c'est à nous à nous élever jusqu'à Dieu. C'est pour cela qu'il est descendu à notre niveau. Il a pris un corps tel que le nôtre. Il est devenu chair tel que nous sommes chairs. Il a voulu s'identifier à nous dans son amour immense. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il est devenu tel que nous sommes sans le péché, afin de nous élever jusqu'à lui. Il nous a donné le modèle afin que nous le suivons. Il a voulu que nous soyons à son image. Et nous avons voulu qu'il soit à notre image. Nous avons essayé de rendre Dieu à notre image et de l'abaisser à notre niveau. Et notre logique et notre raisonnement rationnel. Nous voulons rationaliser Dieu. Nous voulons tout expliquer de Dieu. Nous voulons savoir et l'éprouver dans un laboratoire avec une éprouvette. Voilà ce que nous voulons faire. Sottise ! Nous avons voulu le contrôler ses actions. Nous avons voulu prévoir ce qu'il vous veut faire, prévoir son programme. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Quel Dieu avons-nous ? Et la question, c'est celle-là que j'aimerais vous poser en ce dimanche matin. Quel Dieu avons-nous ? Nous allons prendre la communion dans quelques instants, mais ne prenez pas cette communion alors que vous avez un faux Dieu dans votre cœur, un faux Dieu que vous servez, un Dieu idole que vous chérissez quelque part dans un coin caché et sombre de votre cœur. Vous n'avez pas ouvert toutes les portes de votre cœur afin que le Seigneur et le Saint-Esprit y aient accès. Il y a encore des portes secrètes. Eh bien, vous n'aurez pas de victoire ni de vie si vous gardez une porte secrète. Quel Dieu avons-nous ce matin ? Lorsque nous prendrons la communion dans quelques instants, nous prendrons cette communion parce que nous voulons exprimer au vrai Dieu que nous adorons, que nous l'aimons et que nous voulons marcher selon ses traces. Mais si nous avons d'autres dieux dans le cœur, nous sommes des menteurs et nous prenons jugement contre nous-mêmes. C'est pour cela que chacun s'éprouve soi-même. Le Dieu vivant que nous prétendons servir au milieu de tant de dieux, lequel avons-nous ? Bien sûr, celui que nous prétendons servir a été tellement dilué souvent, a été tellement amoindri, a été tellement affaibli, déformé, disséqué, expliqué. Oh, nous sommes intelligents. Et nous passerons des heures dans des classes de théologie pour écouter ce que le professeur a à dire de Dieu selon son intelligence et sa pensée. Frères et sœurs, c'est insuffisant. Il faut le rencontrer, ce Dieu, et il faut le posséder dans son cœur. On pourra écouter 1000 séminaires sur Dieu et être pourtant perdu. 1000 séminaires sur sa personne et être pourtant perdu. Je ne suis pas là pour vous l'expliquer, mais je suis là pour le prêcher. Et je suis là pour vous dire, je crois en lui. Je voudrais qu'il puisse s'exprimer à travers cette faible vie. Oui, nous avons tellement dilué Dieu aujourd'hui. Il est devenu tellement tolérant vis-à-vis du péché qu'il n'est plus ce que la Bible nous fait voir de son caractère et de sa personne. Il est différent de celui de la Bible. Donc, ce n'est plus lui alors que nous servons. Mais c'est un faux Dieu auquel nous avons mis une étiquette du vrai Dieu. Tellement d'hommes et de femmes ont mis une étiquette du vrai Dieu à un personnage qu'ils se sont fabriqué, tolérant, qui les laisse pécher, tellement plein d'amour qu'il ne jugera jamais. On finira bien être sauvé. Dieu ne veut pas nous jeter tous en enfer. Il est amour. Ah oui, il est amour, mais il est saint, il est juste. Et il pourvoit pour le chemin de la vie. Et celui qui le refuse, il tombera sur le jugement. Bien souvent, dans nos institutions ecclésiastiques, nous avons essayé de défendre et de préserver Dieu, de le rendre moins offensif, plus accommodant envers notre culture et notre façon de vivre. Nous avons voulu l'adapter à notre façon de comprendre et de vivre. Le Christ Jésus de la crèche à Bethléem, le Jésus qui guérissait les malades, le Jésus qui chassait les démons, le Jésus qui fermait la bouche devant ses ennemis et qui priait pour ses ennemis, est bien plus facile d'accepter et de suivre que le Jésus qui se trouve là à Jérusalem et qui rentre dans le temple et renverse les tables des changeurs et qui renverse les sièges de ceux qui font du commerce dans la maison de Dieu. Celui-là, il est plus difficile à accepter. Qui, avec des cordes à la main, chasse tous ceux qui vendent et qui se procurent un gain, une richesse personnelle, un avantage matériel, avec les choses sacrées, avec les choses saintes, dans un lieu saint, dans un environnement saint, faisant du commerce avec les choses de Dieu. Nous trouvons cela dans Matthieu, Marc, Luc. Les trois évangiles nous rapportent la colère de Jésus lorsqu'il était rentré à Jérusalem et que, en rentrant à Jérusalem, tout le monde a chanté « Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur » et qui, avec des palmes, l'acclamait. Les petits enfants, il est entré directement au temple et là, il a pris une sainte colère. Mais Jésus n'a pas fait cela qu'une fois, il a fait ça deux fois. La première fois, nous le trouvons seulement enregistré dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 5. Il a pris une corde et il est allé à travers les commerçants, à travers les vendeurs de brebis et de bœufs et de taureaux, à travers les vendeurs de colombes, à travers les échangeurs d'argent avec un fouet. Et il a dit, vous faites de ma maison une maison de trafic, vous faites de ma maison une maison de voleurs, une maison de voleurs. Pourquoi? Eh bien parce que, d'abord, il a vu que tous ces gens-là travaillaient pour leur propre ventre et qu'ils jouissaient d'un bénéfice exagéré. Les gens qui vendaient au temple, ils vendaient des bœufs, des moutons, des colombes, et ils changeaient de l'argent, car il y avait deux sortes d'argent, l'argent du temple et l'argent à l'extérieur. Et beaucoup venaient de loin. Ils venaient de loin, ils voulaient offrir des sacrifices. La route était trop longue pour amener un bœuf ou une brebis pour être sacrifié. La route était trop longue. Alors, ils prenaient leur argent et ensuite ils changeaient l'argent. Mais le change était excessif. Le bénéfice était excessif. Et ensuite, le prix qui était donné pour ce sacrifice était au-delà du normal. Et ensuite, ça se faisait à l'intérieur de la cour du temple. Jésus a dit non. Non seulement il l'a fait une fois, mais il l'a fait deux fois. Si Jésus a pris le fouet pour chasser tous ces trafiquants, c'est qu'il a vu entrer dans sa maison un faux Dieu. Sa maison devenir un lieu de lucre, un lieu de trafic, pour des revenus personnels avec les choses de Dieu. Et Jésus a dit non! Ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Ma maison est devenue une caverne de voleurs. Si Jésus a dit ça, c'est qu'il y avait des voleurs qui étaient là. Et ces trafiquants étaient des voleurs. Et ils ne pensaient qu'à leur propre ventre. Jésus a vu un usurpateur entrer dans son temple. Voilà ce qu'il a vu. Il a vu le Dieu du commerce, le Dieu du lucre, le Dieu de la cupidité rentrer dans son temple. Le Dieu de gain illicite dans sa maison. Le rejet du sacré. Le profane venir dans sa maison. Frères et sœurs, avons-nous un sens des choses sacrées? Nous sommes tellement vulgaires aujourd'hui et sans respect avec les choses de Dieu. Oui, je le dis bien. Et ceci le met en colère, plus le sens du sacré. On fait n'importe quoi dans la maison de Dieu. On trafique, même par derrière, on vient à l'église avec son petit commerce dans le coin, et quelque part là-bas dans le coin de parking, on veut vendre ses pagnes, on veut vendre ses affaires, on veut vendre, avoir son profit, on veut vendre ses produits de beauté. Eh bien non! Vous ne venez pas au culte pour trouver des clients. Vous ne venez pas au culte pour trouver de l'argent pour votre gain personnel. Vous ne venez pas au culte pour avoir un bénéfice en aucune façon. Vous venez à l'église pour avoir un bénéfice. Sortez! Jésus, lorsqu'il a vu cela, c'est profiteur. Et si vous venez pour cela à l'église, vous êtes des profiteurs. Quand il a vu cela, il a pris une corde et il a tapé à gauche, à droite. Jésus, 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 tu as béni les enfants. Tu as aidé les malheureux. Tu as supporté les coups. Tu n'as jamais dit aucune parole quand on te tapait, on disait du mal de toi. Tu as enduré. Mais il a dit, là, je n'endure pas. Je ne veux pas que ma maison devienne une maison de trafic et une caverne de voleurs. Je connais les bénéfices que vous faites. Vous doublez le prix de ce que vous avez acheté. On va trouver des clients à l'église. Les chrétiens, ce sont des naïfs. Ils ont cru en Jésus, ils croient tout. Des fois, je suis vraiment effrayé de voir la naïveté de quelques-uns parmi vous. Vous agissez comme tous ceux avec lesquels vous travaillez, ce sont des anges. Peut-être des anges, mais avec des cornes. Vous prêtez de l'argent, l'autre vous dit, je te le rendrai, mon frère. Mais oui, ma sœur. Et l'argent est parti et jamais on rembourse. Et ça fait des histoires et des histoires et des histoires. Eh bien, non! La colère a pris Jésus. La colère a pris Jésus. Il a vu cet usurpateur rentrer. Cela, je ne l'admettrai pas, dit Jésus. Vous faites de ma maison une maison de trafic, une caverne de voleurs. L'église de Christ, un lieu de lucre. L'église de Christ, un lieu de convoitise. L'église de Christ, un lieu de gain illicite. Le rejet du sacré pour le vil. L'utilisation des choses saintes à son bénéfice. Pour un gain personnel, un trafic d'âme, je dis bien, un trafic d'âme, une manipulation de l'argent de l'église pour son bénéfice propre. Combien de fois n'avons-nous pas vu dans l'église des hommes qui ont le contrôle de la caisse, qui prennent de leur propre autorité l'argent de la caisse pour acheter un terrain, personne ne le sait, vous m'entendez? Pour acheter un appartement, personne ne le sait. Pour mettre en valeur, soi-disant pour l'Église, je le dis bien. Parce que quand il voit que ça marche, il met ça dans la poche et ne dit rien. Mais quand il y a le contrôle, dehors! Dehors! C'est la raison pour laquelle ici nous avons mis des gens dehors. Vous m'entendez? Ceux qui géraient quelque part. Nous avons mis ces gens dehors, car ça ne peut être dans la maison de Dieu. On ne peut manipuler la caisse de l'église. On ne peut manipuler l'argent de l'église. Pourquoi? C'est sacré. Sachez que chaque franc que vous donnez, dans les offrandes et dans les dîmes, Ceci doit être considéré. Vous m'entendez, mes frères? Vous tous. Ceci doit être considéré comme sacré. Pourquoi? Cette personne le donne dans la maison de Dieu. Elle le donne avec sacrifice. Les salaires sont si petits. Ils donnent leurs dîmes. C'est si petit. Ils donnent leurs offrandes. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ce n'est pas parce qu'ils ont de trop. La pite de la veuve. Si quelqu'un avait pris la pite de cette veuve qui a donné cette petite pièce dans l'offrande de la caisse du temple en ce jour-là, lorsqu'il l'a remarqué, si quelqu'un l'avait mis dans sa poche, croyez-moi, sa colère aurait été terrible. C'est pour cela que l'argent de l'Église doit être géré scrupuleusement pour la gloire de Dieu. Ceux qui travaillent dans l'Église ont droit à leur salaire. Ce salaire est le sang, est le sacrifice de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui travaillent, moi, je reçois de l'argent pour pouvoir vivre. Il y a des églises à l'extérieur qui ont dit, nous allons vous soutenir. Mais mes frères, cet argent est sacré. Et j'ai à rendre compte à Dieu pour cela. La même chose que chacun de nous ici. Et nous ne pouvons facilement donner n'importe comment l'argent de l'église pour n'importe quoi. C'est de l'argent sacré. Pas de manipulation dans l'église avec l'argent du Seigneur. Pas de pseudo-investissement et achat de choses qui soi-disant vont produire. Est-ce que ça va produire? Je n'ai jamais vu que ça produise vraiment bien quand la bénédiction de Dieu n'y est pas. Transparence? Non. Personne ne travaille pour son propre bénéfice personnel dans l'Église. Non. Il y a des marchés pour cela. Et tous les hommes ont le droit d'acheter et de vendre honnêtement pour procurer aux autres ce dont ils ont besoin et en tirer un profit raisonnable. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Mais pas dans la maison de Dieu, avec ce qui doit être considéré comme sacré. Pas de trafic avec le salut. Pas de trafic avec la guérison divine. Pas de trafic avec les dons spirituels. Pas de trafic avec la prophétie ou la révélation ou le discernement spirituel. Pas de trafic avec un don que Dieu vous aurait donné à chercher, à en tirer un profit. C'est la raison, je le répète, c'est la raison pour laquelle les dons spirituels, s'ils sont manifestés authentiquement, doivent être manifestés dans l'Église et non pas en privé à la maison. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Les uns parlent, les autres écoutent et jugent. Et jugent. Et jugent. Il y a des gens qui vous diront toujours, « Oh, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. » Quelle blague! Comment? Dans quel motif vous jugez? Dieu a dit que quand on prophétise, lisez dans le Nouveau Testament, et il y a une grande différence entre la prophétie de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il n'avait pas la révélation que nous avons. Mais nous avons la révélation. Tout a été donné. Tout est dans sa parole. Et si Dieu veut dire quelque chose, ce sera toujours en accord avec sa parole. Si vous entendez quelque chose qui est en désaccord avec cette parole, c'est du diable. Amen. Ou alors l'invention de quelqu'un qui veut se faire passer pour un prophète, entre guillemets. Sachez, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de titre de prophète. Ce n'est pas un titre. Et personne n'a le droit de se présenter comme prophète. Et si il est prophète, les autres en rendront témoignage. Mais lui se taira sur ce plan-là. Ce n'est pas une carte de visite avec prophète. Non, mes frères. Aujourd'hui, Dieu parle aussi par des prophètes, mais ces prophètes s'ignorent. Ce sont ceux qui les entendent qui disent « Il a reçu un message de Dieu ». Ce sont ceux qui les entendent qui disent « C'est Dieu qui a parlé par sa bouche ». Ce sont ceux qui les entendent qui disent « Il y a quelque chose qui vient d'en haut qui n'est pas de lui ». Alléluia. Dieu, donne-nous une parole qui vient d'en haut. Donne-nous des choses qui viennent de toi, non pas de l'homme, que la chair disparaisse. Ne cherchons pas à être autre chose que des pécheurs sauvés par grâce. Ne cherchons pas autre chose qu'être des enfants de la lumière. Et ce que nous pouvons être, eh bien Dieu le sait. Je ne sais pas ce que je suis. Tout ce que je sais, que je suis un crieur. Quelqu'un qui se lève et qui parle beaucoup. Aide-moi, Seigneur, à parler de toi, à parler des choses qui changent la vie et qui donnent la vraie dimension de ta personne. Non, on ne peut pas avoir un profit avec la prophétie, avec la révélation, avec le discernement spirituel, avec les dons spirituels. Autrement, nous attirons la malédiction de Dieu sur nous, comme Simon qui avait voulu acheter le don du Saint-Esprit. Toi et ton argent. Si tu crois que les choses de Dieu s'acquièrent à prix d'argent, pour toi, il n'y a point de chemin de salut. Oh, frères et sœurs, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, Matthieu 10, 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, Matthieu 10, 8. Je ne fais pas une prédication pour qu'on me donne de l'argent. Je ne fais pas des actes sacrés ou chrétiens dans l'église pour qu'on me donne de l'argent. Dieu me pourvoira pour mes besoins. Il sait de quoi j'ai besoin. Mais je le ferai par amour. Je le ferai par amour. Je le ferai pour voir les âmes être sauvées. Maintenant, Dieu dit que ceux qui entendent l'évangile doivent faire participer de leur bien ceux qui prêchent. Voilà. Voilà. Si vous aimez celui qui vous apporte l'évangile, où que ce soit, vous êtes heureux de vous leur donner une partie de vos biens pour qu'ils puissent vivre une vie raisonnable et qu'ils puissent prêcher l'évangile sans être sous pression. Mais le pasteur, l'homme de Dieu, n'est pas un homme qui mendie continuellement de l'argent. Oh, je sais que ça se fait beaucoup dans certains pays, au-delà du Congo, aux États-Unis et même en Europe. Qu'est-ce qu'on entend ça à la télévision? Mais vous n'avez pas à imiter les mauvaises choses qui se font ailleurs. Si tu fais un trafic de ces choses spirituelles, si tu fais un trafic des dons de Dieu pour t'enrichir, la prophétie, la révélation que tu as, soi-disant, ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Elle vient, je le dis, de ton imagination. Et ton imagination est tordue. Ou alors du diable, par un esprit de divination. Moi, j'ai vu ça ici. J'ai vu ça même jusque dans l'église ici. On faisait des réunions chez soi, quelque part, il y avait des gens qui venaient. On disait toutes sortes de choses, de pseudo-révélations. Si vous avez des révélations, faites-les ici, avec témoins. Et ensuite, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui n'allait pas. Des fois, vous ne pouvez pas expliquer. Vous voulez avoir de l'amour, vous ne voulez pas juger, mais vous ne pouvez pas expliquer et vous êtes troublé, troublé, troublé. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Frères et sœurs, méfiez-vous de l'esprit de divination qui vient de Satan. Celui qui trafique avec les choses sacrées aura à supporter le fouet. Comme Jésus, lorsqu'il est rentré dans le temple, il a pris ses cordes à gauche, à droite, il renverse les tables, son fouet tombe sur le dos des marchands, des changeurs d'argent, de tous ceux qui sont là. Vite, vite, ils ramassent leur argent, ils ramassent leurs choses. Attention, attention, pam, 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 Jésus tape. Oh, je suis content. On aime bien parler de Jésus qui guérit, plein de compassion, plein d'amour, plein de support. On entend, on aime bien cela, n'est-ce pas? Mais du Jésus qui prend la colère et qui tape avec le fouet, ça, on n'en en parle pas toujours. Ne vulgarisez pas Dieu. Ne le ramenez pas au niveau de votre fantaisie, au niveau de vos pensées, au niveau de vos caprices. Vous adaptez Dieu. Alors vous fabriquez une révélation que soi-disant, voilà. Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Oh, yeah. Je suis fatigué d'entendre ça. Pour moi, ça ne dit rien. Je suis devenu aujourd'hui très sceptique. Très sceptique. Ne venez pas me parler, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé. Venez me parler de ce que vous avez dans le cœur de faire. Et si c'est Dieu, je le verrai. Mais vouloir obliger tout le monde à se plier à sa volonté en disant « Dieu me l'a dit, Dieu me l'a révélé, je m'en méfie. » Nous n'avons pas besoin d'être manipulés aujourd'hui. Dieu nous a appelé à la liberté. Alors, agissons comme des hommes libres. Et si Dieu nous parle, gardons le secret dans nos cœurs et agissons. Ne vulgarisez pas Dieu. Ne le ramenez pas au niveau de votre fantaisie et de vos caprices, ou même de votre convoitise et de votre cupidité, pour un gain sordide, en abusant de la crédibilité des autres, de la naïveté des autres et des ignorants, et des simples, en exploitant leur crédibilité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ça me fait mal au ventre et ça me fait pitié. La manipulation des autres, à cause de leur ignorance, à cause de leur simplicité, à cause de ce que ils sont des petits enfants aux yeux de Dieu. Ils cherchent Dieu, bien sûr, mais ils ont beaucoup à apprendre. Et ils croient tout ce qu'on leur raconte. Oui, il y a la soif pour l'Évangile ici. Et c'est comme je l'ai dit bien souvent, si quelqu'un se place au marché central et qu'ils se mettent sur la tête, les pieds en l'air, et qu'ils prêchent comme ça, et qu'ils disent aux gens, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, il faut faire cela, il aura des adhérents. Mais, chacun de ces manipulateurs auront un rencontre devant Dieu. Si vous le faites, Jésus prendra le fouet contre vous. Pas de faux Dieu dans sa maison. Ou alors, ce n'est pas sa maison. Il en est sorti depuis longtemps, parce qu'il ne pouvait plus y tenir. Dans sa maison, on ne commet pas adultère. Dans sa maison, ceux qui la dirigent ne sont pas des hommes qui divorcent leur femme pour en marier une autre. Dans sa maison, il n'a pas de manipulateur des foules. Dans sa maison, il cherche des hommes et des femmes décidés à marcher dans la vérité et la sainteté. Et ceux qui dirigent, d'une façon ou d'une autre, sont des exemples. Oh Dieu, aide-moi à être un exemple. Seigneur, je sais que je ne suis pas encore parfait, mais je cours vers cette perfection. Et je te la demande de plus en plus. Mais je suis dans un corps de chair, et ce corps de chair est faillible. Et je sais que je faillis, Seigneur. Mais mon Dieu, grandis dans mon cœur et dans ma vie. Afin que je sois un exemple, comme disait Paul, suivez-moi comme moi je suis Christ. Seigneur Jésus, tu sais que les masses de ce monde aujourd'hui cherchent des exemples, cherchent quelque chose à suivre, Seigneur, et qu'ils regardent à leur prochain pour cet exemple. Et c'est ça que tu veux que nous soyons. Mais Seigneur, Seigneur, que nous soyons des exemples, qu'ils ne soient pas des manipulateurs, ou des trompeurs, mais que ce soit des exemples, que nous soyons des exemples dignes de suivre. Pourquoi? Non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de toi qui es en nous. Que ceux qui nous entourent puissent voir Jésus en nous. Père, c'est notre prière. Et devant toi, et devant ta majesté, nous nous humilions et nous nous abaissons, car nous savons que toi seul, tu es digne, et il n'y en a point d'autre que toi. Jésus est-il dans ta maison? dans cette maison où tu pries, dans cette maison où tu adores, dans cette maison où tu chantes des cantiques, est-il là ou est-il sorti depuis longtemps? Mais attention, attention, il n'est plus dans votre maison, mais vous utilisez son nom. Il ne permettra pas ça. Ça, c'est utiliser son nom en vain. Nous pouvons utiliser le nom de Jésus s'il est avec nous. Nous pouvons utiliser le nom de Jésus s'il est au milieu de nous. Mais s'il nous a abandonnés, s'il nous a laissés à cause des idoles qui sont là et que nous utilisions son nom, c'est un sacrilège. Ce que Jean a vu dans sa vision, ce n'est pas l'enfant de Bethléem, le doux Jésus qui bénit les enfants, qui guérit les malades et qui prie pour ses ennemis. Mais il est là, le juge des nations. Non, l'idolâtrie ne paye pas. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 14. Verset 12. Je me retournais pour découvrir la voix de celui qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans une main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée, c'est sa parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà le Jésus qui est assis dans les lieux célestes aujourd'hui. Ce n'est plus le petit Jésus de Bethléem. Ce sera le juge qui se lèvera pour juger les nations. J'ai beaucoup à vous dire encore dans ce message pour dimanche prochain. Il y a suffisamment pour digérer pour la semaine. Pensez-y, frères et sœurs. Baissons la tête. Devant toi, nous nous courbons. Seigneur, donne-nous, aide-nous, assiste-nous à comprendre ces choses, les choses qui ont à faire avec l'éternité, les choses qui ont à faire avec la marche du vrai chrétien. Trop souvent, Seigneur, dans ta maison, nous avons laissé entrer beaucoup de choses que tu n'aimes pas. Nous avons laissé entrer, Seigneur, le lucre, le profit illicite, le commerce et toutes sortes de manipulations. Non, tu n'as pas dit cela. Tu as dit que ceux qui viendraient dans ta maison devaient être en charge de ta maison et la soutenir par les dîmes et par les offrandes. Mais tu n'as pas dit que dans ta maison, ceux qui portent des vêtements sacrés, Seigneur, soit des manipulateurs d'argent, soit des hommes adonnés au lucre. Tu n'as jamais dit cela. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à comprendre ces principes. Nous pouvons être bien plus riches en t'obéissant qu'en cherchant à manipuler, Seigneur, pour avoir des fonds, de l'argent, des profits, est bien souvent tenté de mettre ça dans notre poche. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire le trafic avec les choses saintes, avec les dons sacrés que tu as donnés à ton Église. Maintenant, nous allons prendre cette communion, Seigneur. Donne-nous de réfléchir. Donne-nous d'être sérieux. Frères et sœurs, si nous avons quelque idole dans notre cœur que nous chérissons, des idoles que lui ne veut pas voir dans le temple de notre cœur. Abstenons-nous de prendre cette communion. Lui, on ne peut pas le tromper. Jugeons-nous nous-mêmes et si véritablement nous sommes en communion avec lui, dans son Église, et que nous marchons en nouveauté de vie, alors, par grâce, toujours par grâce, nous prenons cette communion en nous souvenant du sacrifice, de son sang qu'il a versé pour nous sauver et nous transformer. Pas de trafic avec les choses saintes. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Il le rompit et il le leur donna. Et il leur dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. »
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.